On va faire circuler la feuille pour ceux qui veulent passer des examens de philosophie dans les branches que j'enseigne. Alors pour la semaine prochaine, ceux qui ne peuvent pas passer la semaine prochaine n'auront qu'à venir me trouver ici, sitôt le cours. Autant que possible, inscrivez-vous. Pour ceux qui doivent passer des examens, je ne demande pas. Les examens, c'est la justice, hein, donc c'est strict. Il ne faut pas de surabondance de passer des examens pour le plaisir de passer des examens. Hein. Alors, je réponds d'abord aux questions posées. Peut-on justifier que le sentiment de sécurité se fonde sur la vérité et le sentiment de valorisation sur le bien et non l'inverse? C'est évident qu'au niveau psychologique, les choses sont plus mêlées qu'au plan proprement de l'analyse philosophique. Donc, il faut essayer de saisir l'arête. Il ne faut pas faire un point de vue d'adéquation, ce serait très faux. Il faut bien penser qu'on est à des niveaux différents, le niveau psychologique et le niveau de l'analyse métaphysique. Mais cependant, puisque nous sommes dans l'ordre du pos, dans l'ordre des principes, c'est impossible. Mais dans l'ordre du pos, il y a toujours des correspondances. Puisque le point de vue du pos implique le point de vue d'exercice aussi. Et que le point de vue psychologique est au niveau du conditionnement et de l'exercice. Donc, il y a des possibilités de recouvrir le point de vue psychologique et le point de vue proprement métaphysique. Et que le point de vue métaphysique fonde radicalement le point de vue psychologique. Alors, si nous acceptons que c'est une correspondance analogique, en respectant les plans différents, nous voyons que la recherche de la vérité, qui est propre à l'intelligence qui cherche son bien, et que l'intelligence est source d'autonomie par le point de vue du jugement, l'intelligence permet à l'homme de découvrir plus profondément sa détermination et son autonomie. Vous voyez, je dis exprès autonomie, alors vous allez me dire c'est du côté de l'autonomie. Non, c'est pas du côté de l'autonomie, du sentiment du moi. Mais c'est beaucoup plus du côté de la sécurité, parce que la sécurité lutte contre l'angoisse, et la sécurité implique justement une détermination. Quand on est déterminé, il y a une certaine sécurité. Toutes les angoisses proviennent des indéterminations. C'est l'indétermination ne fait pas l'angoisse, hein, faisons attention, c'est différent, mais permet l'angoisse. Dès qu'on est indéterminé, il y a immédiatement toutes les possibilités d'angoisse. Or, le propre de l'intelligence qui découvre la vérité, c'est de donner une structure profonde à notre intelligence et donc à notre moi personnel dans une orientation qui est vraie. Et donc, elle lutte contre l'angoisse. Il est bien évident qu'une intelligence qui cherche la vérité diminue l'angoisse. Pourquoi y a-t-il tant d'angoisse dans le monde? C'est qu'on ne cherche plus la vérité. C'est une des raisons, c'est pas le seul, hein, c'est pas la seule, mais c'est une qui est très fondamentale. Les idéologies conduisent à l'angoisse. C'est impossible autrement. Parce qu'il n'y a plus de recherche proprement de vérité. Il n'y a plus qu'une recherche d'une certaine harmonie qui est fausse, et donc ça conduit à l'angoisse. C'est en ce sens-là que je mets le lien entre le point de vue de la recherche de la vérité et de la sécurité. Tandis que le sentiment de valorisation, c'est le sentiment que nous sommes capables de réaliser quelque chose qui soit bon, qui soit bien, qui soit notre bien. Alors, c'est fondamentalement la volonté dans sa recherche de la fin et du bien, sa capacité d'aimer, qui est vraiment le fondement de toute valorisation. Je crois que là aussi, le lien est assez net entre les deux. Vous voyez, au fond, si vous essayez de comprendre au point de vue psychologique, le sentiment de culpabilité, provient toujours d'un manque d'amour, d'un manque de responsabilité. C'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout des exigences de l'amour. On n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Alors, ça fait des brisures en nous. Et ça fait progressivement ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, ça détériore. Hein. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Le sentiment de culpabilité n'est pas premièrement du côté du manque de détermination, c'est plutôt du côté du manque d'aimer, du manque de responsabilité. Pour telle chose, on n'a pas été assez attentif. Alors, à partir de là, il y a eu un accident. Il y a eu, à partir de là, il y a eu quelque chose qui a brisé. Alors, c'est au fond le manque d'attention qui, psychologiquement, est directement source de culpabilité. Manque d'attention et manque de responsabilité. Or, métaphysiquement, c'est la capacité d'aimer qui est source de l'attention et de la responsabilité. Oui, faites attention de ne pas faire un parallélisme rigoureux. Hein. Respectez les plans différents. Mais je crois que c'est intéressant de faire ces parallélismes. Moi, pour moi, personnellement, ça me semble très intéressant. Parce que ça me permet d'assumer à sa place ce que représente le point de vue psychologique. Et quand il s'agit de la personne humaine, je n'ai pas le droit de dire la psychologie, ça ne m'intéresse pas. Quand je recherche la substance, j'ai le droit de le dire. Vous voyez, le seul moment où le point de vue psychologique interfère avec le point de vue métaphysique, c'est le problème de la personne. Cherchez pas au niveau de la substance, cherchez pas au niveau de l'acte. Vous ne trouverez rien du tout. La psychologie est trop enténébrée pour retrouver l'acte. Mais le point de vue du problème de la personne, oui. Alors là, ce serait très intéressant de faire une espèce de confrontation entre ce que le psychologue dit sur le point de vue de la personne, la construction de la personne, et ce que le philosophe peut dire. Parce qu'alors vous verriez que toujours le psychologue, ne pouvant pas saisir ce que c'est que l'esprit et ce que c'est que la finalité, parce que même s'il parle de finalité, ce n'est pas la finalité, c'est des motivations. Les motivations ne sont pas la finalité. Les motivations sont du côté nécessairement de choses qui sont de l'ordre des moyens. Et ce n'est pas de l'ordre de la fin. Et donc ce n'est pas le point de vue du bien. Alors, ils ne peuvent pas parler vraiment de l'esprit et de la finalité. Et par le fait même, ils ne peuvent pas construire la personne humaine. Ils peuvent constater des brisures, des manques. Ça, très très bien. Ils peuvent constater que de fait, dans certaines circonstances, il y a eu tel ou tel obstacle qu'on n'a pas su dépasser. Alors, seconde question. Car n'est-ce pas le bien qui sécurise l'ami, la présence d'un autre qu'on aime, de l'époux pour l'épouse? Non, c'est pas ce qu'il y a de premier dans l'amour, la sécurisation. Quand vous dites que votre amour vous sécurise, vous vous rabattez sur la connaissance qui est dans votre amour. L'amour implique toujours un risque, parce que c'est un dépassement. Tandis que la sécurité n'implique pas le risque. L'amour est un dépassement à l'égard de toutes les déterminations. Tandis que l'intelligence nous maintient dans l'immanence des déterminations. C'est pour ça que c'est l'autonomie et la sécurité. C'est beaucoup plus ça, du point de vue de l'intelligence. Tandis que le point de vue de l'amour est un dépassement. Alors c'est pour ça que l'amour sécurisera, mais d'une façon indirecte, pas directement. Ne demandez pas à l'amour de vous sécuriser. Si vous demandez à l'amour de vous sécuriser, vous direz c'est un drôle d'amour. Parce que c'est pas le rôle de l'amour de sécuriser. L'amour implique un dépassement. Et alors l'amour me valorisant me sécurise par la valorisation, parce qu'il y a un lien entre tout cela. Mais souterrain, pas directement. N'est-ce pas le point de vue affectif de l'adoration que l'on peut supprimer N'est-ce pas par le point de vue affectif de l'amour que l'on peut supprimer l'angoisse? Oui, je vois très bien. Alors là, c'est autre chose. Je n'ai pas parlé de l'adoration jusque maintenant. Je compte en parler, mais pas maintenant. J'ai d'abord essayé, puisqu'il faut essayer autant que possible dans un cours de maintenir un certain ordre de connaissances. Nous n'avons pas encore découvert l'existence de Dieu au point de vue métaphysique. Nous sommes au seuil. Et c'est par le problème de la personne et pas par le problème de l'adoration que je découvre l'existence de Dieu. Donc c'est par le problème de la personne. Donc je n'ai pas parlé d'adoration. Que l'adoration, de fait, va être un point de vue très particulier, affectif, et un point de vue de vérité fondamentale, je suis tout à fait d'accord. Alors il faudrait se demander si c'est par l'amour ou par la vérité que l'adoration supprime l'angoisse. Ça, c'est un autre problème. Par l'adoration, je touche le roc. Et je touche le roc par le point de vue de la connaissance, parce que je suis en contact alors avec le Dieu créateur. Et en contact avec le Dieu créateur, je touche le roc. Et c'est cette détermination fondamentale de mon intelligence qui, enveloppée d'amour, qui va supprimer l'angoisse. Donc je retrouve cette vérité fondamentale de l'adoration. L'adoration, c'est d'être dans la vérité pratique. Et c'est parce que c'est d'être dans la vérité pratique que l'adoration me permet de toucher le roc. Alors elle me donne une super sécurité. Ceux qui sont pourchassés par l'ennemi se mettent dans les lieux, vous savez, on voit ça encore dans certaines églises d'Espagne, on voit les bornes qui montent, le lieu où on ne pourrait plus vous atteindre. Vous voyez ça dans l'Ancien Testament, quand vous touchez la corde de l'autel, on ne peut plus vous atteindre. Vous êtes dans une sécurité, parce que vous êtes dans le lieu de l'adoration. Et donc vous êtes dans le lieu de l'adoration, vous êtes dans les mains de Dieu. C'est la sécurité avant tout. Et cette sécurité, elle vient justement qu'on touche le roc, qu'on se met dans cette attitude de vérité au point de vue pratique. N'est-ce pas la vérité qui valorise ? Elle valorise, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui est premier. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses interchangeables. Ce que je cherche, c'est le point de contact par où je peux faire l'analogie. L'analogie, c'est toujours... C'est comme pour la parabole, vous savez. La parabole, il y a une pointe. Et dans l'analogie, il y a une pointe. Par où l'analogie joue et... Il y a les autres aspects qui sont seconds. N'est-ce pas la vérité qui valorise ? L'acquisition d'habitudes de science montre à l'homme ses capacités, ce qui le valorise. Non. L'habitus de science me sécurise dans mes déterminations. Parce que ça me détermine en premier lieu. Ça me détermine en premier lieu. Je comprends, on peut très bien mettre cela en second lieu, mais pas en premier lieu. En second lieu, je suis d'accord. Y a-t-il d'autres questions ? Par rapport à ce que nous avions essayé de comprendre la dernière fois, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le pos de la personne humaine dans toute sa richesse. Bon, alors, nous avions essayé de comprendre comment le problème de la substance, le problème de l'âme spirituelle, me permet de comprendre qu'il y a une capacité tout à fait particulière dans l'âme spirituelle de subsister par soi. D'où cette source fondamentale d'autonomie dans l'ordre de l'être. Vous voyez, c'est intéressant de voir que c'est l'âme spirituelle. Hein. Si je regarde uniquement l'homme comme un animal supérieur, que nous pouvons faire dans certains systèmes psychologiques, quand je regarde uniquement l'homme comme animal supérieur, je reste dans la relativité de l'espèce. L'autonomie de l'éléphant est assez relative, puisqu'elle dépend de la survie de l'éléphant. Tandis que l'autonomie de l'homme ne dépend pas de la survie de l'homme. Il a une autonomie personnelle et individuelle. Donc il va beaucoup plus loin. C'est là on voit ce que c'est que le problème de la personne et l'autonomie dans l'ordre de l'être. Il y a un enracinement beaucoup plus profond parce que l'âme spirituelle peut subsister par elle-même. Et de fait, elle subsiste dans le corps et que le corps est corruptible, mais il y a quelque chose de l'âme spirituelle qui passe à travers le corps. Deuxièmement, nous avons essayé de comprendre comment toute la métaphysique de l'acte et de la puissance me permet de comprendre ces différents aspects de la personne humaine. Une personne humaine est toujours en recherche du bien, elle tend vers le bien, c'est le bien qui la finalise, et c'est l'amour d'amitié qui permet à cette finalité d'acquérir vraiment son terme. donc de vivre de ce bonheur que représente l'amour d'amitié. Et ceci valorise la personne humaine. Lui donne toute sa grandeur, sa capacité. Comment l'esprit recherche la vérité. Cette recherche de la vérité n'est pas au sens strict la finalité de l'homme, mais la finalité de l'intelligence humaine. Et nous avions bien montré la distinction entre la finalité de l'homme et la finalité de l'intelligence humaine. C'est très important. La finalité de l'intelligence humaine n'est pas la finalité de l'homme. Au fond, c'est plus restreint. Alors, cette recherche de la vérité donne ce point de vue de la sécurité. Vous voyez, ce sera encore un point de vue qu'on pourrait voir. La sécurité est quelque chose de plus limité que la valorisation. La valorisation regarde beaucoup plus toute la personne. Tandis que la sécurité est une chose plus particulière, plus précise. C'est de l'ordre de la détermination. Et c'est pour ça que je dis bien que ça regarde le point de vue du développement de l'intelligence cherchant la vérité. Ceci peut prendre toutes sortes de gammes. Hein. Nous reviendrons ça après. Je vois d'abord ce premier point. Pas dans l'ordre du pot, s'il faut aller le plus loin dans l'ordre concret. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que cette première recherche que nous faisons maintenant va se développer ensuite. Nous voyons d'autre part comment l'homme est actué par le point de vue des opérations vitales, mais que ces opérations vitales sont toujours dans un devenir. Alors c'est l'autre aspect du développement de la recherche de la personne humaine. Et je crois ceci, alors aussi très important à souligner, c'est que la personne, au niveau métaphysique, est à la fois indivisible, tout le problème de l'ousia, tout le problème de la substance individuelle, elle est indivisible. Dès que la substance est donnée, c'est-à-dire dès que l'âme spirituelle est donnée, je suis en présence d'une personne humaine. Mais cette personne humaine demande de s'achever. Je ne dis pas de s'achever, d'être parfaitement elle-même. Je ne dis pas une surpersonne. J'aimerais presque mieux dire ça que surêtre. Hein. Mais c'est une personne qui est parfaitement elle-même. Alors vous pouvez dire surpersonne. Inventer des mots comme ça, ça fait bien. Alors, c'est une personne qui se développe parfaitement elle-même. Et elle se développe parfaitement elle-même en atteignant sa fin, son bien propre, en se reliant à une autre personne. Ah, ça, c'est très important de voir que la personne humaine ne peut être parfaitement elle-même qu'en se dépassant. Alors, ceci permet d'assumer toute une perspective d'une quantité de philosophes qui définissent la personne humaine par la communication et la relation. Il y a quelque chose de juste, mais ce n'est pas l'élément premier. Je ne peux pas définir la personne par la communication. Je ne peux pas définir la personne par la relation. Mais je suis tout à fait d'accord qu'une fois que j'ai compris l'autonomie profonde et radicale de la personne, par où je vois son indivisibilité, je peux comprendre que la personne demande un épanouissement et que pour qu'elle puisse être parfaitement elle-même, il faut qu'elle atteigne sa fin. Alors vous comprenez qu'elle atteint sa fin plus ou moins. C'est bien évident. Là, il y a du plus et du moins. C'est plus tout à fait indivisible. C'est indivisible dans son terme. Mais c'est jamais indivisible dans son exercice actuel. Son exercice implique du plus et du moins, pas son terme, pas sa fin comme telle. J'atteins plus ou moins ma fin. Et dans la mesure où j'atteins ma fin, mais comme il y a toujours en moi une potentialité qui demeure, je peux toujours faire une rupture. C'est pour ça qu'il reste toujours un petit peu, un tout petit peu de culpabilité. Deuxièmement, la recherche de la vérité, c'est la même chose. L'exercice implique du plus et du moins. Si l'exercice implique du plus et du moins, il reste toujours une certaine petite possibilité d'angoisse. Tout d'un coup, il peut se faire que
la vérité me semble m'échapper complètement. Tout d'un coup, le bien, ma fin, semble m'échapper complètement. Oui. Et c'est pour ça, parce que de fait, il y a du plus et du moins dans l'ordre de l'exercice. Je ne suis pas acte pur. La personne humaine n'est pas un acte pur. Elle est un acte qui fait qu'elle conquiert cette actualité de plus en plus. Et c'est ce que nous voyons dans cette troisième dimension. Donc, si vous voulez, je mets un ici, deux ici et trois. On vient voir. Enfin, en réalité, deux implique trop, implique les deux. Hein. Implique le point de vue de la valorisation et le point de vue de la sécurité. Mais la troisième dimension, c'est que la personne humaine, parce qu'elle est un vivant, va impliquer de fait des étapes. Il y a des étapes dans cette conquête de la fin et dans cette conquête de la vérité. Il n'y a pas d'étape du côté de l'autonomie, du côté de l'ousia. Il n'y a pas d'étape. Tandis qu'il y a des étapes du côté de ce que représente ce dépassement de l'être humain, de la personne humaine, pour atteindre sa fin, et dans l'être humain qui cherche la vérité. Il y a des étapes successives. Et ça, c'est très important à comprendre, que de fait, je suis obligé, quand il s'agit de la personne humaine, de voir à la fois que cette personne humaine est la même dès le premier instant de sa conception jusqu'au terme de sa mort, c'est la même, l'indivisibilité. Et pourtant, elle a des phases différentes. Oui. Ce qui permet de comprendre ce problème toujours très difficile de dire qu'on devient une personne humaine. C'est vrai. Et on est une personne humaine. Il faut affirmer tout de suite les deux. On est une personne humaine, l'ousia. On devient une personne humaine par toute la métaphysique de l'acte. Et la métaphysique de l'acte permet de rendre raison de cela. C'est un fait. On devient progressivement une personne humaine. Retour au berceau, ça peut arriver à certains moments. On désire retourner au berceau parce que là, au moins, pas de responsabilité. Au moins, là, tout le monde est autour de nous. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Mais le retour au berceau, qui est une tentation constante, c'est une tentation. Il faut sortir du berceau. Et sortir du berceau, ça se fait lentement et progressivement. Bon. C'est l'œil qui sort du maillot, hein, comme dit Platon, hein, pour l'intelligence humaine. Il y a des gens qui n'ont jamais sorti du maillot des langes, de l'intelligence et du cœur. Ils sont toujours restés dedans. Ils sont bien indivisibles au point de vue de l'ousia, mais ils sont restés entièrement enveloppés dans leur maillot. Ça n'est pas arrivé. Ils sont chloroformés toute leur vie. Et alors, ils n'arrivent pas à saisir qu'il y a une fin, un dépassement. Ils n'arrivent pas à saisir qu'il y a une vérité. Si vous ne saisissez pas qu'il y a une vérité et qu'il y a une fin, vous restez dans vos maillots. Spirituel. Complètement emmailloté, absolument. Vous êtes indivisible, c'est sûr, vous vous respectez, on vous respecte comme une personne, mais vous n'avez pas atteint vraiment ce que c'est que la personne humaine. Donc il faut bien noter cette dimension que la personne humaine connaît des étapes successives. Ça c'est très important, parce que ça assume aussi tout le point de vue psychologique. Il y a des étapes, il y a des tournants particulièrement importants, c'est sûr. La phase embryonnaire, voyez, alors il faudrait regarder là tous les développements. Ce n'est pas le rôle au point de vue métaphysique. Hein. Ça, c'est le rôle du psychologue et c'est le rôle de la philosophie du vivant. La philosophie du vivant doit monter les étapes différentes. C'est pour ça que je souligne, c'est le vivant. Je sais que je suis un vivant de vie biologique qui a des étapes différentes. Il y a une croissance, il y a un haut plateau qui peut durer assez longtemps et puis ça dégringole. Ça peut aller vite ou ça peut aller lentement. Ça dépend des décrochages. Si vous rencontrez sur la route des arbres ou si vous n'en rencontrez pas. Alors, vous pouvez rester suspendu pendant un certain temps d'un équilibre vague, n'est-ce pas ? Ou au contraire, vous pouvez dégringoler très très vite dans le précipice. Et le précipice ici a raison. C'est ce que c'est. C'est le retour à la terre. Ça, c'est la mort. Alors, le très gros problème ici,
de la mort par rapport à la personne. Est-ce que la mort ne maintient pas au fond de nous-mêmes une impossibilité d'être parfaitement nous-mêmes? Vous savez bien que la mort, pour beaucoup de psychologues, elle est source de toutes les angoisses. C'est que je porte en moi ma mort. Bon, on est tous prophètes de sa mort. On peut prophétiser sa mort. Un jour je mourrai, je suis prophète. C'est très vrai, au moins on prophétise ça. On sait quand, je ne sais pas exactement, n'est-ce pas, mais un jour je mourrai, prophète de sa mort. Alors, la personne humaine est prophète de sa mort. C'est extrêmement curieux. C'est un des caractères tout à fait particuliers. Je ne définis pas la personne humaine par le point de vue de la mort, mais je définis la personne humaine comme ayant ce pouvoir de reconnaître qu'un jour, elle mourra. Un jour, il y aura cette espèce de fêlure métaphysique qui se ira jusqu'au bout, ce grand tremblement de terre apocalyptique que nous vivrons tous un jour, qui fera qu'il y aura une brisure métaphysique qui atteindra l'ousia. Mais comme l'ousia subsiste par elle-même, c'est comme l'âme spirituelle subsiste par elle-même, elle laissera tomber le corps qui deviendra un cadavre. Vous voyez ? Mais il y aura un tremblement psychologique, un tremblement métaphysique. Et ce tremblement métaphysique, ben, c'est quand même quelque chose qui, à première vue, semble briser le point de vue de la personne humaine. L'individu meurt. La personne ne meurt pas. Je peux prophétiser ça. Mais c'est peut-être ce que Maritain veut dire en voyant la distinction. Alors c'est prophétique. Mais ce qui est prophétique, il faut l'annoncer comme prophétique. Il ne faut pas l'annoncer comme métaphysique. C'est différent, n'est-ce pas ? Il ne faut pas confondre les deux. Mais c'est vrai que la personne humaine comme personne ne meurt pas. C'est-à-dire, dans son indivisibilité d'âme spirituelle, dans son esprit capable d'atteindre le bien et d'atteindre la vérité, mais dans tout son développement biologique, elle peut mourir. Donc, dans tout son domaine du devenir, il y a un moment où je ne deviendrai plus. Il y aura une brisure à ce moment-là. Et cette brisure a une répercussion jusque l'ousia. Donc, vous voyez que le problème de la personne humaine va impliquer le problème de la mort au plan métaphysique. Et savoir si la mort peut être assumée par la personne humaine ou si la mort ne peut pas être assumée par la personne humaine. Alors évidemment, tout le problème, c'est de savoir si j'ai une âme spirituelle immortelle. Alors là, je reste en point d'interrogation, vous voyez. Parce que je ne peux assumer la mort que si j'ai une âme immortelle. Si je n'ai pas une âme immortelle, la mort est victorieuse de moi-même. Et la personne se ramène à l'individu. C'est là où c'est très important de comprendre que je ne comprends parfaitement l'esprit que quand je vois l'âme immortelle. Il y a une répercussion entre les deux. Alors, jusque maintenant, nous ne pouvons pas encore le traiter. Mais nous comprenons que c'est très important de pouvoir maintenir l'interrogation. Y a-t-il en moi une âme immortelle ? Je peux dire que tout semble dire, à cause de la recherche de la vérité, à cause de ce dépassement, parce que comment peut-il y avoir un dépassement sans l'immortalité ? Ça, ce serait intéressant à voir. Comment peut-il un dépassement sans l'immortalité ? Puis-je me dépasser vers une personne autre sans me dépasser ? Vous voyez, on le prend tout le temps du côté de la connaissance et de l'universel, on pourrait ajouter ce problème du dépassement. Et alors ce problème du dépassement nous aiderait beaucoup à mieux comprendre, parce que dans le dépassement, j'atteins une personne humaine. Donc j'atteins quelque chose qui est une réalité qui a son autonomie comme personne. Alors est-ce que ce dépassement n'est-il pas quelque chose qui annonce l'immortalité et exige l'immortalité ? Mais je crois que le problème de l'immortalité qui est posé par le problème de la vérité et par le problème du dépassement ne sera parfaitement résolu que dans le problème de la création. Oui, ça c'est les trois points. Je crois qu'il faut toujours prendre les trois. serait intéressant à voir ça dans Platon, si au fond il ne touche pas d'une certaine manière les trois, mais dans un ordre inverse. Parce que Platon, il y a toujours l'ontologiste de Platon. Mais si dans une recherche véritable, je crois qu'il y a les trois points. Et les trois points sont autour de la personne. Le problème de la mort se pose au niveau de la personne. C'est au niveau de la personne qu'il se pose. Et c'est bien à ce niveau-là qu'il faut le poser. De voir comment la personne peut, à un moment donné, se séparer de son corps. Et elle ne peut assumer son problème de son corps et de son individualité qu'au niveau de la mort. Donc il y a un problème très important à souligner ici. Un autre problème qui alors continue notre recherche métaphysique, c'est le problème de l'un et du multiple. Comment le problème de l'un et du multiple va-t-il nous aider à mieux comprendre ce que c'est que le pos métaphysique de la personne? Autrement dit, quel est le problème de l'unité dans la personne humaine? Très important de comprendre ça, toujours par rapport à l'être et par rapport à la personne humaine. Donc au plan métaphysique, on voit que toute réalité, toute existence ne peut pas demeurer dans le multiple. Je m'aperçois que la personne humaine implique une complexité et une multiplicité très grande. Mais elle a cependant une unité, puisque elle existe pleinement et totalement. Alors c'est très important ici de comprendre au niveau de la personne humaine comment à certains moments la multiplicité l'emporte sur l'unité, et comment quand je suis victorieux, que ma personne est vraiment pleinement elle-même, l'unité assume la complexité et la multiplicité. Autrement dit, nous retrouverions ici ce fameux problème de Jaspers que nous devons regarder au plan métaphysique, qui se pose parfaitement au niveau de la philosophie du vivant, avant tout, qui se pose en premier lieu là, mais qui se pose au point de vue métaphysique. C'est le fameux problème des situations limites. La situation limite par rapport à la personne humaine. Comment la personne humaine peut à certains moments se dégrader, la dégradation de la personne humaine. Vous voyez, la dégradation de la personne humaine, c'est la complexité qui à un moment donné l'emporte sur l'unité. Au plan métaphysique, c'est comme ça, je crois, que je dois le poser. Au fond, la perte de la finalité qui fait que la complexité du conditionnement est telle que je ne peux plus voir cette finalité, et alors à ce moment-là, je me perds dans ma complexité. Et il y a une dégradation progressive qui se fait de la personne humaine. La personne humaine n'est plus conquérante de son autonomie, de sa sécurité et de sa valorisation. Elle retourne vers un aspect du devenir, de la culpabilité et de l'angoisse. Il y a une possibilité. Vous comprenez bien que l'indivisibilité de l'ousia, ça ne se perd pas, sauf par la mort. Et même, ça ne se perd pas par la mort s'il y a une âme spirituelle et immortelle. Mais la conquête de la surpersonne, du dépassement, peut se perdre. Il peut y avoir là, donc, une espèce de dégradation de la personne humaine. Alors, il faut essayer de bien comprendre ce problème. Nous avions vu qu'au niveau proprement métaphysique, le problème de l'un, c'est le problème de la propriété. Que l'un se fonde sur les principes propres de ce qui est comme être. Vous avez donc un problème de l'unité de l'un au niveau de la substance, c'est l'un selon la forme. Et vous avez un problème de l'un au niveau de l'acte, c'est l'un au niveau de la fin. Il faut bien distinguer les deux. Et les deux ont leur structure propre. puisque de fait, le point de vue de la substance et le problème de l'acte sont tous les deux structures profondes de ce qui est comme être. Quand j'applique ce problème au niveau de la personne, je m'aperçois à ce moment-là que c'est le problème de l'un selon l'acte qui donne l'unité dernière de la personne. Une personne humaine n'est pas une en fonction de son âme spirituelle, mais elle est une en fonction de sa finalité. Donc, au niveau de la personne, au niveau du pos de la personne, l'un n'est pleinement un que lorsque la personne est finalisée. Tandis que je ne peux pas dire ça au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, je dois accepter que la personne, que l'être est un selon la substance, est un selon l'acte. Et je ne peux pas dire que la substance est moins acte que l'acte. Je ne peux pas dire que la substance est moins une que l'acte. Elle est autrement une que l'acte. Tandis qu'au niveau de la personne, je peux dire que l'unité n'est parfaite que lorsque la personne atteint sa fin. Oui, c'est très différent. Et ça, c'est la différence entre le point de vue de l'un saisi du côté du pos et de l'un saisi du côté des principes. Je crois que c'est important à souligner. Je ne l'ai peut-être pas assez fait dans le cours l'autre jour, et c'est pour ça que j'y reviens un instant. Parce qu'en réfléchissant sur le problème de l'un de la personne, nous voyons mieux comment l'unité de la personne lui vient de la fin. Ce n'est pas l'acquisition de la vérité qui donne l'unité à ma personne. C'est le lien avec ma fin et mon bien. La recherche de la vérité est une condition nécessaire. Mais ce n'est pas cela qui me donne mon unité. Et ce n'est pas l'ousia qui me donne l'unité parfaite de la personne. C'est vraiment la découverte de l'acte. C'est vraiment la découverte de la finalité qui donne à la personne humaine son unité. Mais évidemment, comme cette découverte du bien, comme cette acquisition du bien se fait toujours progressivement, je peux dire que je conquiers progressivement l'unité de ma personne. Ma personnalité humaine ne sera parfaitement une, ma personne humaine ne sera parfaitement une que lorsque je serai parfaitement lié à ma fin. Tant que je ne suis pas parfaitement lié à ma fin, mon unité de personne peut toujours connaître des situations limites. Or, la situation limite, ce sera quand la multiplicité l'emportera, c'est-à-dire quand je ne serai plus suffisamment lié à ma fin, par l'amour, dans l'amour. Alors à ce moment-là, le problème de la personne, le problème de l'unité ne s'imposera plus avec autant de force, et je retomberai dans les diverses vérités. Je retomberai dans le problème de la complexité de mon corps uni à mon âme spirituelle une. Et je verrai que, de fait, il y a des possibilités de régression. Et la régression, c'est de retomber dans le multiple. C'est de perdre l'unité. Donc, vous voyez, il y a là un problème qui, je crois, nous fait mieux saisir la différence qui existe entre le problème métaphysique de l'être et le problème métaphysique de la personne. Ce n'est pas le même problème. Le problème métaphysique de la personne, c'est le problème métaphysique de l'esprit. L'esprit prime l'être dans la personne, si j'ose dire. Et nous le voyons tout de suite ici, dans la recherche de l'unité de la personne. L'unité de la personne est au niveau de la finalité. C'est donc vraiment l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit, c'est quelque chose que l'esprit acquiert progressivement en atteignant son bien et en vivant de son bien. Et c'est en atteignant son bien et en vivant de son bien que l'esprit s'unifie. Mais donc que la personne humaine s'unifie. En faisant que toute sa complexité prend une signification. Parce que grâce à l'unité, tout prend sa signification dernière. Quand je suis dans la recherche multiple et diverse, qu'il n'y a pas assez d'unité en moi, je risque toujours de ne pas comprendre suffisamment tous les efforts que je fais et la signification de la tension, de la conquête, du combat. C'est bien évident. Une grande manière, vous savez bien, de faire perdre la force dans le combat, c'est de supprimer l'unité et l'harmonie. Alors à ce moment-là, vous partez dans tous les sens. Au point de vue politique, c'est très net. C'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant parce qu'il faut étudier ces choses-là au point de vue philosophique. Il faut les comprendre. On les vit, il faut les comprendre. Il faut les comprendre au point de vue philosophique. Alors, il faut les comprendre au point de vue philosophique que de fait, une grande... C'était la grande astuce dans la dernière guerre, c'était très... de dire, non, c'est plus la peine de continuer. Vous êtes encerclé. Vous êtes pris. Alors à ce moment-là, on n'a plus aucune force. Oui, c'est comme quelqu'un disait d'avance, mais oui, c'est pas la peine, vous n'arriverez jamais à l'unité. Votre esprit n'atteindra jamais le point de vue de l'amour. Alors c'est pas la peine. Alors vous ne luttez plus. Oui, vous êtes dans une situation limite de celui qui dit impossible de m'unifier. Tandis que si au contraire on comprend qu'il y a une possibilité de s'unifier par la découverte de la fin, en aimant une personne, que cette personne soit une personne humaine ou une personne divine, vous voyez, elles unifient toutes les deux différemment du reste. Alors, à ce moment-là, il y a une unification qui se fait jusque dans la recherche de la vérité. Et il y a une unification qui se fait dans la complexité de toute ma vie humaine. Et c'est vraiment là où il y a le saut sur la personne humaine. La personne humaine réclame l'unité. L'unité qui se prend de la fin. Donc c'est une unité qui se prend en premier lieu de l'acte. De la finalité. Cette unité va permettre de respecter des paliers différents dans une complexité, mais elle va les unifier. Une personne humaine n'est pas unifiée par la recherche de la vérité. C'est très curieux. Regardez des grands matheux, regardez des grands philosophes, ils manquent quelquefois chez eux un peu d'amour, ils ne sont pas unifiés. L'intelligence n'unifie pas la personne humaine. Parce que l'intelligence respecte la diversité de ses objets. Qu'est-ce qui unifie la personne humaine ? Seul l'amour et seule la fin. L'ousia, qui est une fondamentalement, n'unifie pas la personne humaine. Elle est une condition sine qua non, c'est bien évident. S'il n'y avait pas cette autonomie substantiel, il n'y aurait pas d'unité personnelle, mais c'est la fin qui unifie. C'est la fin qui donne cette unité parfaite. Alors demain, puisqu'il y aura encore un cours, et puis la semaine prochaine, nous essaierons à partir de là, sauf si c'est des questions, il faut les poser, parce que c'est des questions importantes à bien saisir, ça. Nous verrons les diverses modalités de la personne. Vous voyez, puisque c'est un pot, il faut voir comment la découverte de l'existence de Dieu va me mettre en face d'une personne religieuse créature. Comment la créature peut être une personne. Et donc c'est le problème de l'adoration que nous retrouverons. Puis nous essaierons de comprendre s'il y a une personne au niveau artistique, s'il y a une personne au niveau moral, s'il y a une personne, et ainsi de suite.